Au seuil de l'invisible, la messagère de Noël Roger, enregistré par Christiane Johan. Vous venez de Suisse, mademoiselle ?
Oui, Miss Patterson.
Alors, vous parlez allemand. Je cherche une institutrice capable d'enseigner le français.
Miss Patterson, je suis de Genève.
Et bien précisément, la jeune fille de Berne que j'avais l'année dernière savait un peu de français.
Avec quel accent ?
Avez-vous beaucoup d'accent allemand ?
À Genève, on parle français, Miss Patterson.
Alors, je crois que nous pourrons nous entendre. Le matin, les leçons, français, allemand, musique. L'après-midi, la promenade, pendant laquelle vous parlerez français aux enfants. Charlotte Vernier, assise très droite, en face de la vieille demoiselle anglaise, écoute le minutieux programme. Sur son visage immobile, rien ne paraît de sa tristesse découragée. Elle est venue à Londres, munie d'un diplôme brillamment obtenu, et s'imaginait trouver tout de suite une place intéressante dans quelque pensionnat aristocratique ou chez un lord dont elle élèverait les filles. Et depuis des semaines, elle s'offre à droite, à gauche, en vain. L'aristocratie anglaise prend l'habitude aujourd'hui d'envoyer ses filles aux écoles publiques. Désarçonnée en face des exigences que les directrices formulent, timide et trop fière, Charlotte se présente mal. Peu à peu, malgré de dures économies, elle a vu fondre la petite somme, équivalent à de nombreuses privations, que sa mère lui remit lors de son départ. Une veuve de médecin, obligée de pourvoir aux études de ses deux fils, n'a guère de ressources. Charlotte, ce matin, a lu dans le Times qu'une institutrice au pair est demandée pour un internat d'enfants près de Weybridge. Elle se propose un peu à contre-cœur. Ne rien gagner, ne rien envoyer à sa mère, c'est dur. Cependant, elle se résigne. Un porte-monnaie presque vide n'augure-t-il pas la pire détresse ? Avec une anxiété grandissante, elle interroge cette figure plate, sèche, plissée au coin des paupières, de qui dépend sa destinée. Elle écoute s'entrechoquer avec un bruit de grelots ses minces bracelets d'argent, si nombreux qu'on dirait des mitaines brillantes dont la vieille fille orne ses poignets. Miss Patterson, ayant fini d'énumérer les charges qui incombent à la maîtresse de français, décide « Vous entrerez demain ». Charlotte calcule qu'elle aura juste assez d'argent pour prendre le train si elle évite un porteur et traîne sa grosse valise. Miss Patterson l'enverra chercher à la station, 4 kilomètres séparent de Weybridge le cottage en briques roses, isolé, près de la forêt. Maison de famille où sont accueillis, élevés et choyés une douzaine d'enfants nés aux Indes. De sombres jours commencent. À cette longue table que préside Miss Patterson, entourée d'une guirlande de visages puérils, Charlotte, plus seule que dans sa petite chambre de Renline Street, se sent honnie par quelques-uns, suspectée par les autres. Le ton de Miss Patterson, ses regards passant au-dessus de Charlotte et cette déplaisante habitude de réserver pour les élèves tous les fruits du dessert, assignent à la jeune fille une place inférieure et lointaine. Elle est vexée de partager sa chambre avec deux fillettes, vexée d'avoir à défendre ses pauvres heures de liberté. Les institutrices anglaises n'essaient-elles pas d'obtenir pour leur compte des leçons de français supplémentaires ? Charlotte revendique son droit, tient bon, mais ne gagne aucune sympathie. Sa classe ne l'intéresse pas, elle ne peut aimer ses élèves, indociles, nerveux, comme tous les enfants nés aux Indes, de complexion délicate, et gâtés par leur mère que déchire la perspective de l'arrachement inévitable. Jacques, l'aîné, donne l'exemple d'une impolitesse méprisante. Alden, son jeune frère, est le tourmenteur attitré de Mademoiselle. Les autres imitent Alden de leur mieux ou ne sortent pas de leur mutisme, comme les brunes jumelles, comme cette Elsie, surnommée la toute petite et qui semble stupide lorsque Mademoiselle la réprimande. Il fait si froid dans cette salle d'études, Miss Patterson exige que la fenêtre soit toujours ouverte. Et l'on voit osciller au courant d'air les feuilles du maigre palmier qui occupe le centre de la table. Charlotte, frissonnante, marche de long en large, tout en dictant, afin de s'attarder une minute près de la cheminée où rougeoient quelques charbons. La promenade est un supplice. Une dizaine d'enfants s'éparpillent le long des sentiers de la forêt, disparaissent sous les taillis que novembre ouate de brume. Alden trempe ses pieds dans le ruisseau. Jacques asperge ses camarades. L'institutrice essoufflée s'efforce de rejoindre la bande, de gronder dans son anglais boiteux qui suscite des rires.
Elle n'a pas un regard pour les fougères dorées, la splendeur des hêtres. Quant aux dialogues en français, il n'en est plus question. « j'en ai assez !» répète Charlotte le soir, enfin réfugiée dans son lit et versant des larmes, la figure sous le drap, tandis que se rejoignent les respirations sereines de Dolly et de May. Personne ne s'inquiète de sa tristesse, de ses malaises, de sa toux persistante. Noël approche. Les parents qui arrivent des Indes emmènent leurs enfants pour les vacances. D'autres, à la veille de s'embarquer, étreignent une dernière fois les chers petits. Charlotte, de loin, assiste à la joie du revoir, aux déchirants adieux. Jack et Alden partent, encadrant leur mère, et ne tournent pas la tête de son côté. Les jumelles sanglotent, refusent de quitter le hall d'où elles virent disparaître la voiture qui emportait leur maman. En vain, Charlotte prodigue des consolations. Les deux fillettes se détournent. La toute petite erre silencieuse dans la maison. Elle n'attend personne. Sa mère est morte, aux Indes, et son père remarié. Elle fixe sur mademoiselle de grands yeux craintifs, car Charlotte souvent la rudoyait, lui reprochant d'être distraite et incapable de saisir un mot de français. Miss Patterson, qui souffre du départ d'Alden, se réfugie dans une attitude glacée, plus lointaine que d'habitude. Pourquoi idolâtrer ce garçon insupportable au lieu d'élire la fillette solitaire et délaissée ? Charlotte se pose cette question avec indifférence. Sa propre peine occupe trop son cœur pour qu'elle s'intéresse au chagrin des autres. Quelques jours avant Noël, Miss Patterson l'amende au salon et d'une voix glacée, tandis que ses bracelets s'entrechoquent furieusement, lui adresse de brèves paroles. « Eh bien, mademoiselle, Alden et Jack viennent de partir. May est parti. Le père de Dolly emmène sa fille ce soir. Les autres, dès demain, sont en vacances. Plus de leçons, vous vous occuperez de la toilette des enfants, de leur bain, des savonnages. Justement, une des bonnes s'en va. Vous la remplacerez. » Charlotte se redresse, cramoisie. Sa colère domine sa timidité. D'une voix sèche, elle réplique « Je ne suis pas bonne d'enfant. D'ailleurs, je ne saurais m'y prendre. » « C'est facile, » déclare Miss Patterson. « On vous montrera. »« Je ne veux même pas essayer, » rétorque l'institutrice. « En ce cas, mademoiselle, vous retournerez à Londres, car j'ai besoin de votre chambre. Vous partirez lundi, à moins que vous ne changiez de décision. »« Je partirai, » dit orgueilleusement Charlotte. « Je partirai et ne reviendrai pas. » Elle ferme la porte, gagne sa chambre. Son cœur bat d'indignation. Demain, samedi, son jour de sortie, elle ira chercher une place à Londres. Oui, prendre le premier train, tarif réduit. Elle a vendu sa broche en or et possède un peu d'argent. L'aube dissipe à peine les ténèbres. Charlotte, d'un pas rapide, longe la forêt, se faufile dans un wagon rempli d'ouvriers et regarde fuir le paysage brumeux dont le jour enfin levé éclaire les grisailles. Sitôt qu'elle se voit ballottée par la cohue de l'immense ville, son espoir s'évanouit. Dans chaque bureau de placement, la même réponse ironique lui fait perdre courage. « Ce n'est pas l'avant-veille de Noël qu'on cherche une institutrice. » L'après-midi s'achève en démarches inutiles. Les Holmes ne disposent d'aucune chambre, d'aucun lit. Le cœur lourd, Charlotte revient à la gare de Waterloo. Dans ce dédale de rue, cette accumulation infinie de maisons, pas la moindre place pour elle. Après les fatigues de sa triste journée, un amer dégoût l'accable, et aussi cette perspective de parcourir la nuit le chemin solitaire qui côtoie la forêt. Le brouillard, de plus en plus dense, la marche du train, sans cesse ralentie, tout conspire à augmenter son trouble. Weybridge. Impossible d'apercevoir la route, on distingue à peine, étouffée sous les watts, la lueur des réverbères. Ensuite, la campagne s'étale comme un drap noir. Charlotte rassemble les restes de sa vaillance, se hâte, s'efforce de garder le milieu de la chaussée. Dans ces ténèbres de cauchemar, elle éprouve la sensation de perdre l'invisible chemin, trébuche, glisse au fond d'un fossé, se relève, marche en aveugle, s'affaisse dans l'autre fossé. Saisie d'une intolérable angoisse, elle retourne sur ses pas pour contempler encore le dernier réverbère. Si faible et comme épuisée sous le brouillard, cette petite flamme lui paraît un don merveilleux. « Viens avec moi, ne me quitte pas. » Et Charlotte se figure emporter un peu de lumière lorsqu'elle reprend sa marche incertaine entre les deux fossés. Bientôt le chemin longera la forêt. Cette ombre immense, compacte et toute proche, déjà l'épouvante. si je dépassais la maison que je ne pourrais voir. De lourdes minutes s'éternisent, Charlotte avance, tâtonne, enfin le sentier qui mène au portail, la lampe du vestibule jette par le vitrage une lueur diffuse, il est plus de minuit, la jeune fille gagne sa chambre froide, se couche sur son lit, grelottante et désespérée. Elle se lève à l'heure réglementaire. Miss Patterson écoute avec une expression de blâme le récit du terrible retour, ne témoigne aucune sympathie et intime un ordre. « Vous conduirez les enfants à l'église. » Charlotte se rebiffe. « Non, elle n'ira pas à l'église. Elle s'occupe de ses bagages puisqu'on la renvoie. » Lorsque sonne midi, elle avise la toute petite qui erre dans le corridor. « Elsie, prévenez Miss Patterson que je ne déjeune pas. Je suis souffrante. » Et sans remarquer les grands yeux doux qui se lèvent sur elle, Charlotte referme la porte. Sa journée s'écoule dans une solitude amère. Elle n'a pas menti en se disant malade. Son rhume prend des allures de bronchite. Lasse et révoltée. « Je suis seule. Personne ne m'aime. Oh, mourir !» Elle jalouse ses deux frères qui fêtent Noël à la maison. Demain, encore ses démarches aussi harassantes que vaines. Ensuite, se laisser choir sur un banc, attendre qu'un policeman la ramasse, ou, comme d'innombrables malchanceux, enjamber un parapet de la Tamise, puisqu'il n'y a point de place pour elle dans la vie, point d'affection, point d'amis, point de refuge. Qu'importe de mourir quand la souffrance excède les pauvres forces humaines. La nuit est venue. Charlotte, assise au pied de son lit, le front dans les mains, s'abandonne à sa désespérance. Elle n'entend pas la porte s'ouvrir. Quelqu'un tourne le commutateur. Charlotte, sous le jet de lumière, tressaille, lève les yeux. La toute petite, immobile sur le seuil, la regarde. « Que venez-vous faire ici ?» interroge sévèrement l'institutrice. Une fraîche voix suppliante murmure « Je vous apporte un peu de dessert, mademoiselle !» Et deux mains frêles posent sur les genoux de Charlotte une mandarine, des raisins secs, deux biscuits. « De la part de Miss Patterson » s'écrie-t-elle, stupéfaite. « Oh non !» La toute petite semble craindre que ne s'échappe un secret. L'expression soucieuse de sa mine palote contraste avec ses 9 ans chétifs, sa taille malingre d'enfant demeurée trop longtemps sous un climat meurtrier. « Alors, c'est votre dessert, Elsie. Pourquoi me l'offrir ?» La toute petite fait un pas et répond timidement « Parce que vous êtes toute seule, mademoiselle, et que je m'ennuyais sans vous. » Charlotte, pour la première fois, observe la fillette dont les yeux embués confessent « Moi aussi, je suis toute seule. Alors, je sais. » Elle prend la menotte et dépose un baiser distrait sur les cheveux blonds. « Merci, ma chérie. » La terne petite face se transfigure. Un sourire, des yeux brillants de larmes, un visage qui se colore et rayonne, tandis qu'une voix soudain passionnée murmure « Encore, oh encore, dites encore, ma chérie !» Mais déjà l'enfant se rejette en arrière. « Oh, mademoiselle, comme vous êtes pâle, comme vos yeux sont rouges, vous avez pleuré !»« Je suis un peu malade, » balbutie Charlotte, prise au dépourvu. « Alors je vous soigne, » déclare la toute petite, à qui le baiser de mademoiselle confère une audace étonnante. « Couchez-vous sur le lit. Oh, laissez-moi ôter vos bottines, ça me ferait un plaisir !» Déjà les menottes à droite s'empressent. La réprouvée écoute le tendre babil, enfin libéré, qui lui semble une musique très douce. « Voulez-vous ce coussin? Si vous permettez, je brosserai vos cheveux. Je sais très bien brosser les cheveux. Et puis, votre ménage. Quand on est malade, on ne peut pas plier ses habits. » Une émotion inconnue gonfle la poitrine de Charlotte. « Elsie, est-ce que vous allez un peu mieux ?» demande la fillette. « Oui, je vois un peu mieux. Reposez-vous encore, mademoiselle. » Et sans bruit, elle va, vient, ramasse les vêtements que Charlotte, au cours de ses préparatifs, a jetés pêle-mêle. Soudain, une exclamation, un sanglot, Elsie découvre la valise commencée. « Oh, vous allez partir !» gémit-elle avec un accent de reproche si amer que Charlotte s'émeut. « Fillette, pourquoi tant de chagrin ?»« Parce que c'est vous que j'aime, » sanglote la toute petite. « Mais pourquoi, Elsie ? « Je n'ai rien fait que vous gronder. » Les paroles haletantes qui lui répondent la pénètrent de remords. « J'aimais être grondée par vous. J'aimais mieux ça. quand vous aviez l'air de ne pas me voir, j'aurais voulu être grondée. Elsie. Et maintenant, maintenant, Hoquette, la toute petite qui redouble de pleurs. Charlotte serre contre sa poitrine le corps enfantin secoué de désespoir et achève en elle-même la phrase coupée. « Maintenant que tu sais que je t'aime, maintenant que tu penseras quelquefois à me parler, à m'embrasser, maintenant que j'aurais pu être heureuse, tu t'en vas. » Une flamme inattendue illumine sa solitude. Elle pressent cet amour silencieux qu'elle n'a su apercevoir. Un flot de tendresse balaie son acrimonie et sa révolte. L'amour qu'on désespère d'atteindre est là, dans l'ombre, à côté de nous, tandis que nos yeux aveugles le cherchent vainement. Ce cœur de fillette, donné sans réserve, si patient, et qui attendait et souffrait, alors que Charlotte se plaint d'être seule et ne sait pas aimer. Quelle révélation ! Ne pleure plus, Elsie. Charlotte sent autour de son cou l'étreinte des bras caressants et continue de baiser les cheveux blonds. Ah, que lui importe désormais d'abaisser son orgueil en disant à Miss Patterson « J'accepte ». Elle sera heureuse, et non pas humiliée, de prodiguer à ses élèves des soins maternels, de les baigner, de les vêtir. Aucune vexation ne l'atteindra maintenant que son âme est protégée par ce bouclier merveilleux de l'amour. « Ne pleure plus, ma mignonne !» Le son de cette voix, si douce et si tremblante, avertit l'enfant. « Oh, mademoiselle, vous ne partirez pas ?»« Je resterai avec toi, ma chérie, pour toi. »